En gagnant mon pain, 9e partie. Chapitre 19. Je suis de nouveau chez mon ancien patron. L'appartement où vivait la reine Margot est occupé maintenant par une nombreuse famille. 5 jeunes filles, toutes plus jolies les unes que les autres, et 2 lycéens. Ils me donnent des livres. Je dévore Tourguenieff et je suis ravie. En lui, tout est compréhensible, simple, d'une transparence automnale. Ses héros sont nobles, et tout ce qu'il décrit avec tant d'indulgence est grand et bon. Je lis Le Bourg de Pomialovski, et je suis étonnée. Comme cela ressemble à notre existence à l'atelier. Je la connais si bien, la désespérance de l'ennui qui se transforme en frénésie sauvage. J'aimais à lire les livres russes. J'y sentais toujours quelque chose de mélancolique et de familier, comme si les sonneries du grand carême se fussent cachées et figées entre leurs pages. J'ouvrais à peine le volume qu'elles se mettaient aussitôt à tinter doucement. Les âmes mortes de Gogol ne me séduisirent pas, pas plus que les mémoires de la maison des morts de Dostoïevski. Les âmes mortes, la maison des morts, la mort, trois morts, l'uniformité des titres arrêtait involontairement mon attention et me causait une vague antipathie pour ces livres. Le signe des temps, pas à pas, que faire, la chronique du village de Smouriné, me déplurent comme tous les ouvrages de ce genre. En revanche, Dickens et Walter Scott m'enchantèrent. Je lus ces auteurs avec le plus grand plaisir, reprenant 2 ou 3 fois de suite le même ouvrage. Les livres de Walter Scott me faisaient penser à une messe pompeuse dans une riche église. C'est un peu long et traînant, mais toujours solennel. Dickens est resté pour moi l'écrivain devant lequel je m'incline. Il a atteint au suprême degré l'art difficile de faire aimer les gens. Le soir, toute une bande de jeunes gens se rassemble sur le perron de la maison. Les frères K, leurs sœurs, des adolescentes, Semako, un lycéen au nez en pied de marmite, parfois venait mademoiselle Ptizine, la fille d'un fonctionnaire important. On parlait de littérature, de poésie. Ce thème m'était familier, j'avais lu plus que tous. Mais en général, ils me racontaient des incidents du lycée, se plaignaient de leurs professeurs. En les écoutant, je me sentais plus libre qu'eux. J'étais surpris de leur patience, mais pourtant je les enviais, car ils étudiaient. Mes camarades étaient plus âgés que moi. Cependant, je me faisais l'effet d'être plus vieux, plus mûri et expérimenté. J'en éprouvais quelque embarras. J'aurais voulu me sentir plus rapproché d'eux. Je rentrais tard le soir, couvert de poussière et de boue, tout à mes impressions si différentes des leurs, en vérité assez banales. Les garçons parlaient beaucoup des jeunes filles. Ils s'amourachaient tantôt de l'une, tantôt de l'autre, et essayaient de composer des vers. Souvent, on avait recours à moi. Je m'exerçais volontiers à la versification, trouvant les rimes sans difficulté. Mais je ne sais pourquoi, mes poésies prenaient toujours une tournure humoristique, et mademoiselle Ptizine, à qui elles étaient généralement dédiées, y était invariablement comparée à des légumes, à un oignon. Semako grondait. « Ça, des vers? Jamais! Ce sont des clous de souliers !» Désireux de me laisser dépasser en rien, je m'amourachais aussi de mademoiselle Ptizine. Je ne me rappelle pas comment je manifestais ce sentiment, mais la fin de l'idylle fut lamentable. Sur l'eau stagnante et verte de l'étang Sviedine flottait une planche, et je proposai à la jeune fille de la promener sur cette embarcation improvisée. Elle acquiesça, j'amenai la planche à la rive, j'y montai. Elle me supportait fort bien. Mais quand la jolie enfant, en fraîche toilette tout ornée de rubans et de dentelles, se plaça avec grâce à l'autre extrémité, et que je repoussai fièrement l'esquive du rivage avec un bâton, La maudite planche céda sous notre poids, et la jeune fille fit un plongeon. Héroïquement, je la suivis et la ramenai bientôt au bord. L'effroi et la boue verte avaient anéanti la beauté de madame. Me menaçant de son poing mouillé, elle me criait « Tu as fait exprès de me noyer !» Elle ne voulut pas croire à la sincérité de mes intentions et me traita dès lors avec hostilité. Ma rentrée chez mes patrons ne fut pas plaisante. La vieille était toujours mal disposée envers moi. La jeune dame me considérait avec méfiance. Victor, qui était devenu encore plus rougeau, grâce à ses taches de rousseur, bougonnait après tout le monde. Le patron avait une telle quantité de projets à dessiner qu'il ne parvenait pas à les exécuter même avec son frère. Il demanda à mon beau-père de venir les aider. Un jour, je revins de la foire de bonne heure, vers 5 heures, et en pénétrant dans la salle à manger, j'aperçus, installé à la table à côté du patron, l'homme que j'avais totalement oublié, mon beau-père. Il me tendit la main. « Bonsoir. » Je restai muet de surprise. Le passé s'enflamma soudain en moi comme un incendie et me brûla le cœur. « Il a eu peur !» s'exclama le patron. Le beau-père me souriait. Dans son visage décharné, ses yeux sombres s'étaient agrandis. Il était comme écrasé et fripé. Je glissai ma main dans ses doigts minces et fiévreux. « Alors, nous nous rencontrons de nouveau ?» dit-il en tout sautant. Je sortis, privé de force, comme si on m'avait battu. Entre nous s'établirent des rapports mal définis et prudents. Il me disait « vous » et me parlait comme à un égal. « Quand vous irez à l'épicerie, achetez-moi, s'il vous plaît, un quart de tabac à la ferme, du papier à cigarette Victorson et 1 livre de saucisson. » L'argent qu'il me donnait était toujours désagréablement réchauffé par sa main brûlante. À n'en pas douter, il était tuberculeux et n'avait plus longtemps à vivre. Il le savait, et disait d'un ton paisible, en effilant sa petite barbe noire et pointue, « J'ai une maladie presque incurable. D'ailleurs, si l'on consomme beaucoup de viande, on peut se guérir. Peut-être guérirai-je. » Il avalait des quantités incroyables de nourriture. Il mangeait et fumait, n'abandonnant la cigarette que pendant les repas. Tous les jours, je lui achetais de la charcuterie, du jambon, des sardines. Mais la sœur de grand-mère assurait, avec une malveillance dont j'ignorais la cause, « On ne peut pas nourrir la mort avec des hors-d'œuvre. On ne peut pas la tromper, la mort. Oh non !» Les patrons traitaient mon beau-père avec une sollicitude outrageante. On lui conseillait sans cesse tel ou tel remède, mais on se moquait de lui dire qu'il était absent. « Ce grand seigneur, il faut enlever les miettes qui traînent sur la table, il prétend qu'elles attirent les mouches !» disait aigrement la jeune femme. Et la belle-mère continuait. « Oh oui, un grand seigneur, son veston est tout élimé, il est tout luisant. Et il ne cesse de le brosser. Quel maniaque !» Et le patron ajoutait, comme pour les consoler, « Patientez, les poules, il mourra bientôt. » Cette attitude stupide et hostile des bourgeois envers le noble me rapprocha involontairement de mon beau-père. Étouffant dans cet entourage, il ressemblait à un poisson placé par le hasard dans un poulailler. Comparaison stupide, comme l'était toute cette vie. Je me mis à découvrir en lui des traits de caractère pareils à ceux de Bonne Affaire, l'homme que je n'oublierai jamais. Je parais celui-ci, et la reine Margot, de tout ce que les livres me donnaient de meilleur. C'est à eux que je consacrais ce que j'avais de plus pur en moi, toutes les fantaisies engendrées par la lecture. Comme Bonne Affaire, mon beau-père était un homme étrange qu'on n'aimait pas. Il traitait tout le monde dans la maison de la même manière. Jamais il ne parlait le premier. Il répondait aux questions avec une politesse et une concision particulières. J'aimais beaucoup à l'entendre quand il donnait des conseils au patron. courbé en deux sur la table, tapotant d'un ongle sec le papier épais, il expliquait avec calme « Ici, il est indispensable de relier les poutrelles par une clé de voûte. Ainsi, la force de pression sera répartie sur les murs. Autrement, les poutrelles céderaient. » « C'est vrai, que le diable emporte !» murmurait le patron. Et sa femme lui disait, quand Maximoff était sorti, « Je suis étonné de ce que tu te laisses faire la leçon de la sorte !» Ce qui agaçait tout particulièrement la jeune femme, c'était de voir mon beau-père se brosser les dents après le souper et se rincer la bouche en faisant saillir sa pomme d'Adam. Parfois, il venait me rejoindre dans le corridor. Je dormais sous l'escalier du grenier et je lisais, assis sur une marche en face de la fenêtre. « Que lisez-vous ? » demandait-il. Je montrais le livre et jetais un coup d'œil sur le titre. « Je crois l'avoir lu. Voulez-vous fumer ?» Nous fumions, en regardant par la fenêtre dans la cour malpropre. Il reprenait. « C'est bien dommage que vous ne puissiez étudier. Vous avez, je crois, des capacités. Mais j'apprends, je lis. C'est insuffisant, il faut une école, une méthode. J'avais envie de lui dire, vous, monsieur, vous avez eu école et méthode, et quel est le résultat? Mais comme s'il eût soupçonné mes pensées, il ajoutait, quand on a du caractère, l'école vous développe beaucoup. Seuls les gens très instruits peuvent avancer dans la vie. » Une fois, il me conseilla. « Vous feriez mieux de vous en aller d'ici. Je ne vois aucun sens et aucun profit pour vous à ce que vous y restiez. » « Les ouvriers me plaisent. Ah, et par quoi ? Ils sont intéressants. » « Peut-être. » Un autre jour, il dit, « Quel fumier en réalité que nos patrons ! Quel fumier !» Je me rappelais où et comment ma mère avait prononcé ce mot, et je m'écartais involontairement de lui. Il me demanda en souriant, « Vous ne croyez pas ?»«
Si. »
« Oui, je le vois. Pourtant, le patron me plaît. Lui, c'est peut-être un brave homme, mais il est bizarre. » J'aurais voulu parler littérature avec lui, mais il n'aimait pas les livres. À plusieurs reprises, il me donna ce conseil. « Ne vous enflammez pas. Les livres dénaturent tout, dans un sens ou dans un autre. La plupart des gens qui écrivent sont des hommes comme notre patron. » Des médiocrités. Parfois, il restait longtemps assis à côté de moi, sans prononcer un mot, se contentant de tout sauter et de fumer sans arrêt. Ses beaux yeux brûlaient avec une flamme inquiétante. Je le regardais à la dérobée, et j'oubliais que cet homme, qui mourait si honnêtement, si simplement, sans se plaindre, avait été jadis très cher à ma mère, et qu'il l'avait offensé. Je savais qu'il vivait avec une couturière, et je pensais à cette femme avec une pitié mêlée de surprise. Comment n'était-elle pas dégoûtée d'étreindre ce corps décharné, d'embrasser cette bouche d'où sortait une odeur de pourriture? Comme bonne affaire, le beau-père énonçait parfois à l'improviste des propos sans lien qu'il tirait de son propre fond. « J'aime les chiens courants. Ils sont bêtes, mais beaux. Les belles femmes sont souvent stupides. » Non sans fierté, je pensais, « Si tu connaissais la reine Margot. » Tous les gens qui habitent longtemps au même endroit finissent par avoir le même visage, dit-il une fois. Je notais cette observation dans mon cahier. J'attendais ces sentences comme des aumônes. J'aimais à entendre ces associations de mots si remarquables dans une maison où l'on parlait une langue incolore, ossifiée dans des formes désuètes et monotones. Le beau-père ne fit jamais allusion à ma mère. Je crois même qu'il ne prononça jamais son nom. Je lui en fus reconnaissant. J'éprouvai pour lui, de ce fait, un sentiment proche du respect. Une fois, je le questionnai sur Dieu. je ne me rappelle pas au juste en quels termes. Il me jeta un coup d'œil et dit très paisiblement « Je ne sais pas, je ne crois pas en Dieu. » Je me souvins de Sitanov et je me mis à parler de lui. Le beau-père, après m'avoir écouté avec attention, répondit du même ton tranquille « Ils discutent, et ceux qui discutent croient tout de même en quelque chose. Moi, je ne crois pas, tout simplement. » « Mais est-ce possible ? » « Pourquoi non ? Vous le voyez bien, je ne crois pas. » Je voyais surtout une chose, il se mourait. Je ne le plaignais pas, mais je ressentis pour la première fois un intérêt naturel et aigu pour ce moribond de demain, pour le mystère de la mort. Un être est assis à côté de moi, il me frôle le genou, il respire, il pense, il parle de tout, comme quelqu'un qui a le pouvoir de juger et de décider. Je trouve en lui un appui qui m'est nécessaire, quelque chose de bon et de protecteur. C'est un être d'une complexité inconcevable, le réceptacle d'un tourbillon continuel de pensées. Quelle que soit mon attitude envers lui, il est une partie de moi-même. Il vit en moi. Je pense à lui et son âme se mêle à mon âme. Demain, il disparaîtra tout entier, avec tout ce que renferment sa tête et son cœur, avec tout ce que je crois pouvoir lire dans ses beaux yeux. Quand il disparaîtra, un des liens vivants qui me rattache au monde se brisera. Il ne restera que le souvenir, un souvenir précis que rien ne pourra altérer ou effacer. Quant au corps mortel, il va se transformer et disparaître. Mais plus haut que les pensées, il y a la cause des causes, la cause première, inaccessible en son essence, qui nous tourmente et nous pousse à crier désespérément « Pourquoi ?» « Je crois que je vais bientôt m'aliter, » dit mon beau-père un jour où la pluie tombait. « Quelle stupide faiblesse !» Et je n'ai envie de rien. Le lendemain soir, après le thé, il enleva avec un soin particulier les miettes de pain qui restaient sur la table et sur ses genoux. Il paraissait écarter de lui quelque chose d'invisible. La vieille patronne le regarda en dessous et chuchota à sa bru « Regarde, il se nettoie, il lisse ses plumes. » Le surlendemain, il ne vint pas travailler. La sœur de grand-mère me remit une grande enveloppe blanche en ajoutant « Tiens, on l'a apportée hier vers midi, mais j'ai oublié de te la donner. » C'était une mignonne petite femme. Quant à dire s'il y a parenté entre vous, je n'en sais vraiment rien. L'enveloppe contenait une feuille de papier au timbre de l'hôpital et portant ces mots écrits en grosses lettres « Si vous avez un moment de liberté, « venez me voir, je suis à l'hôpital Martinov, E.M. » Le lendemain matin, j'étais à l'hôpital, assis sur le lit du beau-père. Il était plus long que le matelas, et ses pieds, en chaussettes grises tire-bouchonnées, émergeaient entre les barres du lit. Ses beaux yeux erraient vaguement vers les murs jaunes. Ils s'arrêtèrent sur mon visage, et sur les petites mains de la jeune fille assise à son chevet. Elle avait mis ses mains sur l'oreiller, et contre ses doigts, Maximov, la bouche ouverte, se frottait la joue. La jeune fille, bien rondelette, était vêtue d'une robe noire très simple. Des larmes roulaient lentement sur son visage ovale. Ses yeux bleus mouillés ne se détachaient pas de la figure émaciée du beau-père, de son grand nez devenu plus aigu, de sa bouche noire. « Il faudrait un prêtre !» chuchota-t-elle. « Et il n'en veut pas, il ne comprend pas. » Et, en levant ses mains de dessus l'oreiller, elle les serra contre sa poitrine, comme si elle priait. Pendant un instant, le beau-père revint à lui, regarda au plafond, prit un air grave et sembla se rappeler quelque chose. Puis, il tendit vers moi sa main décharnée. « Vous ? Merci. Voilà, vous voyez, Je me sens tout drôle. Fatigué par l'effort, il ferma les yeux. Je caressais ses longs doigts glacés aux ongles bleus. La jeune fille demanda à mi-voix « Je vous en prie, permettez qu'un prêtre... » Il murmura quelques mots inintelligibles et se tut. Puis, sa bouche s'ouvrit plus grande et soudain il poussa un cri rauque. Il s'agita sur sa couche, rejetant la couverture, cherchant autour de lui. La jeune fille se mit aussi à crier et cacha sa figure dans l'oreiller froissé. Le beau-père trépassa et son visage s'embellit aussitôt. Je sortis de l'hôpital en soutenant la jeune fille. Elle chancelait comme une malade et pleurait. Elle tenait un mouchoir pelotonné en boule qu'elle appliquait sur ses yeux. Elle l'enroulait toujours plus fort et le regardait comme si c'eût été son plus précieux, son dernier trésor. Soudain, elle s'arrêta, se serra contre moi et dit d'un air désolé « Il n'a même pas vécu jusqu'à l'hiver. Ah, mon Dieu, mon Dieu !» Elle me tendit une main mouillée par les larmes. « Au revoir, il vous aimait beaucoup. On l'enterre demain. » « Puis-je vous accompagner jusque chez vous ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. « Non, merci, il fait encore jour. » Du coin d'une ruelle, je la regardais s'éloigner. Elle marchait lentement, comme quelqu'un qui n'est pas pressé et que personne n'attend. C'était au mois d'août, les feuilles des arbres commençaient déjà à tomber. Je n'eus pas le temps d'accompagner le beau-père au cimetière, et je ne revis jamais la jeune fille. Chapitre 20. Tous les matins, à 6 heures, je m'en allais au travail, à la foire. Des gens intéressants m'y attendaient. Le charpentier Ossip, travailleur habile et prompt à la réplique. Avec ses cheveux gris, il ressemblait à Saint-Nicolas. Efimouchka, le couvreur bossu. Le maçon, Piotr, un homme songeur et pieux, qui rappelait aussi un saint. Le plâtrier Grigori Chichlin, un beau garçon aux yeux bleus, à la barbe dorée, tout rayonnant de bonté. Je connaissais ces gens depuis ma rentrée chez le dessinateur. Le dimanche, ils arrivaient, dignes, graves, avec des paroles aimables qui m'étaient nouvelles. Tous ces robustes gaillards me semblaient alors facilement déchiffrables et foncièrement bons. Chacun d'eux était intéressant à sa manière. Tous se distinguaient avantageusement des bourgeois fripons, méchants et alcooliques du faubourg de Kounavin. Le plâtrier Chichlin me plaisait plus encore que ses compagnons. Je demandai même à faire partie de son équipe, mais il me répondit par un refus. Il déclara, en grattant d'un doigt blanchi son sourcil doré, « C'est trop tôt pour toi. Notre besogne est pénible. Attends encore un an ou deux. » Puis, hochant sa belle tête, il demanda « Tu n'es pas heureux ? Eh bien, ça ne fait rien. Domine-toi. Prends patience. Alors tu supporteras ton sort. » Je ne sais pas ce que ce conseil m'a rapporté de bon, mais je me le rappelle avec gratitude. Tous ces tâcherons venaient chez mon patron chaque dimanche matin. Ils se plaçaient sur les bancs tout autour de la table de la cuisine et, dans la tente, ils tenaient des discours intéressants. Le patron les recevait avec une gaieté bruyante et serrait leurs robustes mains. On s'asseyait dans le vestibule. Les factures et les liasses de billets apparaissaient. Les hommes étalaient sur la table leurs notes et leurs calepins usés. On établissait les comptes de la semaine. Tout en plaisantant et en babillant, le patron essayait de les duper, et eux s'efforçaient de le frauder. Parfois, ils se querellaient avec colère, mais la plupart du temps, ils riaient amicalement. « Eh, brave homme, tu es né coquin !» disaient les hommes au patron. Il répondait avec un petit rire embarrassé « Et vous autres, les lapins, vous êtes fripouilles aussi !»« Mais ça ne peut pas autrement, patron !» avouait Efimouchka. Et Piotr ajoutait avec gravité on vit de ce qu'on vole, et ce qu'on gagne, c'est pour Dieu et pour le tsar. »
J'ai moi aussi envie de vivre, répondait le patron en riant.
Il l'approuvait. Grigori Chicheline, appliquant des deux mains sa belle barbe sur sa poitrine, proposait d'une voix chantante.
« Camarade, faisons les affaires proprement, sans tromperie. Quand on vit honnêtement, on est si bien, si heureux, n'est-ce pas? Nous sommes tous frères, hein ?»
Ses yeux bleus se fonçaient, s'attendrissaient et devenaient humides. En ces instants-là, il était d'une beauté, d'une bonté extraordinaire. Sa demande semblait troubler tout le monde, et chacun détournait la tête avec embarras. Après quelques réflexions philosophiques, on recommençait à essayer de se filouter les uns les autres. Les comptes arrêtés, les hommes lassés et suants s'en allaient au café prendre du thé et invitaient le patron à les y accompagner. À la foire, je devais veiller à ce que ces tâcherons ne dérobassent ni les clous, ni les briques, ni les planches. En plus de sa besogne chez mon patron, chacun d'eux entreprenait différents travaux et s'efforçait d'enlever sous mon nez quelque chose qui pût servir. Il m'avait accueilli en ami, et Chicheline avait déclaré « Tu te rappelles, tu m'as demandé de te prendre dans mon équipe. Et maintenant, regarde où tu as grimpé. Tu vas être mon chef, hein ?»«
Eh bien, veille et surveille, et que Dieu te conserve !»
plaisanta Ossip. Piotr murmura avec mécontentement
« On envoie un jeune blanc-bec pour diriger le vieux rat !»
Mes fonctions m'embarrassaient cruellement. J'avais honte vis-à-vis de ces gens. Il me semblait que, seul, ils savaient quelque chose de très beau, de très mystérieux, et moi, je devais les considérer comme des voleurs et des trompeurs. Les premières journées me furent pénibles. Ossip s'en aperçut bientôt. Il me dit en tête à tête
« Écoute, mon garçon, ne fais pas de zèle, ça ne sert à rien, comprends-tu ?»
Évidemment, je ne compris pas, mais je sentis que le vieillard voyait la stupidité de ma situation, et très vite, nous nous liâmes d'amitié. Dans un coin, à l'écart, il me confiait
« Le plus grand voleur parmi nous, si tu veux le savoir !» C'est le maçon Piotr. Il est rapace, et sa famille est nombreuse. Ne le quitte pas de l'œil. Tout lui est bon. Il ne dédaigne rien. Une livre de clous, une douzaine de briques, un sac de chaux, tu peux tout lui offrir. Et cependant, c'est un brave homme, un dévot. Il a été à l'école, il a des principes, mais il aime à chaparder. Efimouchka, lui, ne vit que pour les femmes. Il est paisible et il ne te nuira jamais. Ce n'est pas une bête. Les bossus sont tous intelligents. Grigori Chicheline est timbré. Le bien d'autrui ne le tente point et il donnerait plutôt du sien. Il ne travaille pas mal du tout et chacun peut le duper. Lui, il ne pourrait duper personne. Il vit sans réflexion.
Il est bon ?
Ossip me regarda comme de loin et me dit des paroles mémorables.
« Oui, il est bon. Être bon, c'est ce qu'il y a de plus facile pour les paresseux. La bonté, mon garçon, ça ne demande pas d'esprit. »
« Et alors, toi ?»
Ossip sourit et répondit. « Moi, je suis comme la jeune fille du conte. Quand je serai grand-mère, je parlerai de moi. Attends jusqu'alors. » Que ta propre raison seule découvre ce que je suis. Cherche-moi. » Il me semblait que Piotr, le maçon, était l'homme le plus honnête et le plus loyal. Il parlait de tout en termes brefs et convaincants. Sa pensée se portait de préférence sur Dieu, l'enfer et la mort.
Ah, frère camarade, on a beau se démener, on peut espérer ce qu'on veut. Mais personne n'échappera au linceul et à la tombe. »
Il avait constamment des maux de ventre. Il arrivait parfois qu'il ne pouvait rien manger. Même un minuscule morceau de pain lui causait des souffrances atroces et d'abominables nausées.
Et Fimouchka, le bossu, me semblait aussi honnête et bon, mais toujours ridicule, parfois bené, souvent même insensé. Il ne cessait de s'éprendre de toutes sortes de femmes, et il parlait de toutes dans les mêmes termes.
« Je te le dis franchement, ce n'est pas une femme, mais une fleur dans de la crème, ma parole !»
Quand les alertes filles de Kounavine venaient laver les planchers dans les boutiques, Efimouchka descendait du toit, se plantait dans un coin et ronronnait, la bouche fendue jusqu'aux oreilles, les yeux mi-clos.
« Hé, quelle solide gaillarde ! Le Seigneur m'a amené ! Quelle joie est descendue jusqu'à moi ! Ah, quelle belle fleur dans de la crème ! Comment vais-je remercier le ciel pour un cadeau pareil ? Une beauté comme ça me fait vivre et m'incendie !»
D'abord, les femmes riaient de lui et se criaient l'une à l'autre « Regarde donc le bossu qui brûle et se fond, qu'il est drôle !» Les Lazzi ne touchaient point le couvreur. Son visage aux pommettes saillantes prenait un air endormi. Il parlait comme s'il eût rêvé. Ses paroles douces coulaient en un torrent capiteux et les femmes s'en grisaient visiblement. À la fin, l'une des plus âgées disait avec étonnement à ses camarades « Écoutez donc comme il roucoule cet homme. Un jeune ne ferait pas mieux. »
« Il chante comme un oiseau. »
Ou comme un mendiant à la porte de l'église.
Mais Efimouchka ne ressemblait pas à un pauvre. Il se tenait ferme comme une souche noueuse. Sa voix se faisait toujours plus persuasive et ses paroles plus séductrices. Les femmes l'écoutaient en silence. En effet, il semblait se fondre en un discours caressant qui donnait le vertige. Et l'histoire finissait ainsi. Au moment du souper ou après le travail, il hochait sa tête anguleuse et pesante et disait à ses camarades « Eh bien, quelle bonne petite femme douce et agréable! C'est la première fois de ma vie que j'en touche une pareille !» En racontant ses bonnes fortunes, Efimouchka ne se vantait point. Il ne se moquait pas de sa victime, comme les autres le faisaient toujours. Il était heureux, reconnaissant et attendri. Ses yeux gris s'écarquillaient de surprise. Ossip hochait la tête et s'exclamait « Ah, l'incorrigible coureur ! Quel âge as-tu ? »
« J'ai 44 ans, mais ce n'est rien. Aujourd'hui, j'ai rajeuni de 5 ans. Je me suis baigné dans de l'eau vive, comme dans une rivière. Je suis tout guéri. J'ai le cœur tranquille. Non, quelle femme il y a par le monde, hein ?»
Le maçon répliquait sévèrement « Quand tu arriveras à la cinquantaine, tu verras, elles te seront amères et salées, tes vilaines habitudes. »
« Tu n'as pas de vergogne, Efimouchka !» soupirait Grigori Chicheline.
Et il me semblait que le beau garçon enviait les succès du bossu. Chicheline était mariée, mais sa femme était restée à la campagne, et il se mit aussi à regarder les laveuses de plancher. Elles étaient toutes d'abord faciles. Chacune d'elles faisait des heures en plus. Dans ce faubourg miséreux, ce genre de besogne supplémentaire était considéré comme un travail semblable aux autres. Mais le beau paysan ne touchait pas aux femmes. Il les regardait de loin avec un regard particulier, comme s'il les plaignait ou se plaignait lui-même. Et quand elles commençaient, les premières, à coqueter avec lui, à l'enjôler, il s'en allait avec un petit rire embarrassé.
« Voyons, Nigo !» le réprimandait Efimouchka. « Peut-on perdre des occasions pareilles ?»«
Je suis marié, » lui rappelait Grigori.
« Mais est-ce que ta femme le saura ?»«
La femme le sait toujours quand on a été infidèle. Il n'y a pas moyen de la tromper, elle. »«
Comment le saura-t-elle ?»«
Ça, je n'en sais rien, mais elle doit le savoir si elle vit honnêtement elle-même. » « Et si je vis honnêtement et qu'elle pêche, je le saurai. »«
Comment ?»
crie Efimouchka. Mais Grigori répète tranquillement, «
Je l'ignore, mais je le saurai. »
Le couvreur exaspéré fait un geste vague.
« Il ignore par quel moyen, mais il le saura. Voilà, arrangez-vous. Bûche !»
Le patron me donnait 5 kopecks par jour pour ma nourriture. C'était insuffisant et j'avais toujours un peu faim. Les ouvriers s'en aperçurent et m'invitèrent à déjeuner et à souper avec eux. Parfois, les entrepreneurs m'invitaient à venir prendre le thé au café. J'acceptais volontiers. J'aimais à me trouver en leur compagnie, à écouter leurs propos indolents, leurs étranges histoires. Ma compétence en livres sacrés leur plaisait beaucoup.
« Tu as avalé des livres jusqu'à la gorge. Tu t'en es rempli la panse !»
disait Ossip en me regardant attentivement avec ses yeux de bleuet. Il était difficile d'en saisir l'expression. Il semblait toujours que ses prunelles fondaient et se dissolvaient.
« Garde ça bien soigneusement, ça te servira. Quand tu seras grand, va-t'en au couvent pour consoler les gens par tes sermons. Ou bien fais-toi missionnaire pour discuter avec les hérétiques. Ou bien fais-toi hérétique toi-même. C'est aussi un métier qui nourrit bien son homme. Quand on a de l'intelligence, l'hérésie elle-même vous nourrit. »
Grigory rit avec embarras et Piotr marmotte dans sa barbe.
« Et les sorciers, ils ne vivent pas mal non plus. Toutes ces sortes d'infidèles vivent bien. »
Mais aussi réplique aussitôt.
« Les sorciers ne sont pas savants. La science ne va pas aux sorciers. »
Et il me raconte cette histoire. « Écoute, mon garçon, il y avait dans notre village un journalier appelé Touchka. Il était bête et misérable. Il vivait comme la plume au vent, tantôt ici, tantôt là. Il n'était ni fainéant ni travailleur. Un jour, ne sachant que faire, il partit en pèlerinage. Pendant 2 ans, il vagabonda. Tout à coup, il reparut sous un nouvel accoutrement. Les cheveux très longs, un petit bonnet sur la tête, vêtu d'une courte soutane en peau de diable. Il nous regarda tous du haut de sa grandeur et nous répéta sans s'arrêter « Repentez-vous, maudits !» Et qui n'a quelque chose à confesser sur toutes les femmes. Alors, tout a été pour lui comme sur des roulettes. Touchka put, à satiété, manger et boire. Quant aux femmes, il n'eut pas lieu de se plaindre d'elles. Le maçon l'interrompt avec colère. « Mais l'essentiel est-il de manger et de boire ? »
« Qu'est-ce alors ?
L'essentiel, ce sont les paroles. Aussi, la conscience. »
« Oh, je ne m'en suis pas autrement occupé. J'en ai moi-même de trop des paroles et de la conscience. »
Le beau visage de Chicheline prend un air austère. Il peigne sa barbe avec ses doigts, dont les ongles sont rayés de plâtre sec. Et il chuchote mystérieusement
« Dieu est omnipotent dans toute créature. La conscience et tout l'être intérieur nous ont été donnés par Dieu. »
« Et les péchés ?»«
Les péchés viennent de la chair, de Satan. Les péchés, c'est en dehors, comme la rougeole, rien de plus. Celui qui pêche le plus est celui qui pense le plus au péché. Si on ne parle pas du péché, on ne pêche pas. La pensée du péché vient du diable. C'est le souvenir de la chair qui l'inspire. »
Ces conversations me maintenaient dans un état de tension perpétuelle et me causaient une vague inquiétude. J'avais déjà lu bien des choses sur le moujik et j'avais vu combien le vrai paysan ressemblait peu à celui des livres. Dans les livres, il est toujours malheureux. Bon ou mauvais, il est très pauvre de mots et de pensées. Il parle à peine de Dieu et des sectes de l'Église. Il se préoccupe surtout de ses supérieurs, de la terre, de la justice et des cruautés de la vie. Il parle peu des femmes. S'il le fait, c'est avec affectation et sans grossièreté. Pour le paysan vivant, la femme est une distraction, mais une distraction dangereuse. Avec la femme, il faut toujours ruser, sinon elle a le dessus et elle embrouille toute l'existence.
le moujik des livres est invariablement ou bon ou mauvais, sans mélange, sans nuance. Dans la vie, les paysans ne sont ni mauvais ni bons. Même quand l'homme réel semble avoir vidé son sac, on sent toujours qu'il reste en lui quelque chose de bien intime, de bien personnel. Et peut-être est-ce justement l'essentiel qu'il tait et cache au fond de son âme. Maintenant, Ossip parle. On dit que les maîtres sont des étrangers pour le paysan. Ce n'est pas vrai. Nous sommes de même essence que les maîtres. Seulement, nous sommes tout en bas. Le noble, il apprend dans les livres. Et moi, à coups de bâton. Son derrière est plus blanc que le mien. Voilà toute la différence. Non, mes enfants, c'est le moment que le monde vive d'une autre manière. Il faut abandonner, lâcher toutes ces fariboles. Il faut que chacun se demande « Qui suis-je ? Un être humain. Et l'autre, qui est-il ? Un être humain aussi. Allons, quoi, Dieu exigerait-il de lui ou de moi un impôt différent ? Non, nous sommes tous égaux devant Dieu. Il faut que nous soyons égaux dans la vie. » Chapitre 21. En hiver, il n'y avait presque pas de travail à la foire. En revanche, à la maison, j'étais chargée comme auparavant d'une foule de petites besognes. Elles absorbaient la journée tout entière, mais je disposais de mes soirées. De nouveau, je lisais à haute voix au patron des romans qu'il ne me plaisait pas, publiés dans divers journaux. Mes nuits étaient consacrées à la lecture de bons livres et à des essais de versification. Un dimanche, pendant que les femmes étaient aux vêpres, le patron, un peu souffrant, resta à la maison et me dit « Victor raconte que tu composes des vers, Peshkov. Est-ce vrai ? Lis-m'en quelques-uns. » Je n'osai refuser. Je lus quelques pièces. Visiblement, elles ne plurent pas au patron. Cependant, il m'encouragea. « Continue, continue. Peut-être deviendras-tu un Pushkin. As-tu lu Pushkin ? Peut-on enterrer un lutin ? Peut-on marier une sorcière ? » À son époque, on croyait encore au lutin. Lui, bien sûr, n'y croyait pas. Il plaisantait, tout simplement. « Oui, oui, mon ami, » fit-il d'un ton pensif. « Tu aurais dû étudier, mais c'est trop tard. Le diable sait comment tu t'en tireras. Cache bien ton cahier. Si les femmes s'en mêlent, tu n'auras plus la paix. Elles aiment ça, les femmes. Ça les prend au cœur. » Depuis quelque temps, le patron était devenu pensif et moins bruyant. Sans cesse, il jetait autour de lui des regards craintifs, et les coups de sonnette l'effrayaient. Parfois, il s'irritait pour des futilités, invectivait contre tout le monde, s'enfuyait de la maison et rentrait très tard, complètement ivre. On sentait que quelque chose avait troublé sa vie et déchiré son cœur, mais il gardait son secret. Le dimanche, depuis le dîner jusqu'à 9 heures, j'allais me promener. Le soir, je m'arrêtais dans un café de la rue Yamskaya. Le patron, gros homme, toujours en sueur, aimait passionnément le chant. Les chantres de presque toutes les églises le savaient et se rassemblaient chez lui. Il leur offrait de l'eau-de-vie, du thé, de la bière, en récompense de leur cœur. Les chantres, presque tous des ivrognes fort peu intéressants, donnaient du gosier sans entrain, sans goût, uniquement pour payer leur écho. Comme les dévots ivrognes estimaient que le café n'était pas un local convenable pour écouter les hymnes religieux, le patron les invitait parfois à passer dans sa chambre. Je n'entendais alors les mélodies qu'à travers la porte. Fréquemment, des amateurs, artisans ou paysans, s'unissaient aux professionnels. Le patron allait lui-même en ville à la recherche des choristes, s'informant des belles voix, au jour de marché, parmi les campagnards arrivés des environs, et il les conviait chez lui. Le chanteur du jour s'asseyait près du buffet, devant le fût d'eau-de-vie. Sa tête se dessinait sur le fond du tonnelé, comme dans un cadre.
Le meilleur chanteur, celui dont le répertoire me plaisait le plus, était le sellier Kleschoff, un petit homme maigre, fripé, qui avait une mine de papier mâché et des mèches de cheveux roux. Son nez, volumineux et tordu, brillait comme celui d'un mort. Ses yeux minuscules et endormis étaient immobiles. Parfois, il les fermait, et sa nuque heurtait le fond du tonnelet. La poitrine bombée, d'une voix de ténor, il commençait avec un débit précipité. Et, depuis que le brouillard est tombé sur les champs dénudés et qu'il a voilé les chemins lointains, il se redressait, s'appuyait au buffet, rejetait la tête en arrière et continuait avec expression, les yeux fixés au plafond. « Et où irai-je? Où irai-je? Où trouverai-je le large chemin ?» La voix manquait de puissance, mais elle était claire, infatigable. Elle dominait le brouhaha confus du café, comme une cloche d'argent. Les paroles mélancoliques, les appels et les gémissements agissaient fortement sur tous ces hommes. Les ivrognes eux-mêmes devenaient graves. Ils contemplaient fixement la table, et mon cœur se brisait sous l'influence de cette musique. Un silence d'église emplit le cabaret, et le chanteur m'apparaît comme un bon prêtre. Il ne prêche pas, mais il prie de toute son âme pour le genre humain. Il pense honnêtement, à haute voix, à toutes les misères de la pauvre vie humaine. De toutes parts, les hommes barbus le regardent. Des yeux ingénus clignotent dans des physionomies de brutes. Parfois, quelqu'un soupire, et ce soupir souligne bien la force victorieuse du chant. En ces moments-là, il me semblait toujours que ces gens avaient vécu d'une vie fade, factice, et qu'ils connaissaient maintenant la véritable vie. Dans un coin, je voyais la grosse Lissouka, une marchande cynique qui se livrait à la débauche. Elle écoutait, la tête rentrée dans ses énormes épaules, et ses yeux de bête se remplissaient de larmes. Non loin de là, le baryton Mitropolski, un gaillard chevelu à l'air sombre, s'était effondré sur la table. Des yeux immenses brillaient sur son visage d'ivrogne. Il regardait son verre d'eau-de-vie, le prenait, le portait à ses lèvres, et le posait de nouveau, sans bruit, avec précaution. Il ne pouvait plus boire. Et tout le monde dans le cabaret paraissait recueilli, comme si l'on eût prêté l'oreille à quelque chose de lointain et de très cher. Lorsque Kleschoff, la pièce achevée, se rasseyait modestement, le cabaretier lui servait un verre d'eau-de-vie et disait avec un sourire de satisfaction « C'est très bien, quoique tu chantes moins que tu ne déclames, tu es un artiste. » Personne ne pourrait le nier. Sans se presser, Kleschoff vidait son verre, tout sautait avec précaution et murmurait « Chacun peut chanter s'il a de la voix, mais personne ne sait aussi bien que moi interpréter le sentiment d'une romance. » « N'exagère rien, ne te vante pas ainsi. » « Celui qui n'a pas de quoi se vanter ne se vante pas, » réplique le chanteur, toujours sur le même ton, mais avec plus d'obstination. « Tu es fier et exalté, Kleschoff !» s'exclame le cabaretier un peu dépité. « Je ne m'exalte pas plus haut que mon âme !» Dans le coin, Mitropolski maussade mugissait. « Qu'est-ce que vous comprenez au chant de ce vilain ange, pourriture et moisissure que vous êtes ?» Il était toujours en désaccord avec tout le monde. Il discutait avec chacun, accusait les gens à tort et à travers, et presque tous les dimanches, les chantres l'en punissaient en le rouant de coups. Le cabaretier aimait les chants de Kleschoff, mais il ne pouvait supporter l'homme lui-même. Il médisait de lui à toute occasion, et cherchait visiblement à l'humilier, à le tourner en ridicule. Les habitués du lieu et Kleschoff lui-même s'en apercevaient bien. « Il est bon chanteur, mais trop susceptible. Il faut lui former le caractère, » disait le patron. Et ses hôtes de l'approuver.
C'est vrai, il est orgueilleux.
Il est fier de sa voix. Il oublie qu'elle lui vient de Dieu seul. Et enfin, elle n'est pas phénoménale.
Le public complaisant répétait « C'est vrai, il a plus de talent que d'organes. » Une fois, alors que le chanteur, fatigué, s'en était allé, le cabaretier suggéra à Lissouka.
« C'est toi, Lissouka, qui devrais t'amuser un peu avec lui, le faire marcher. Ça ne te dérangerait pas beaucoup. »«
Si j'étais plus jeune, » dit la femme en souriant. Bouillant et criard, le patron répondit
« Les jeunes ne savent rien. Tu devrais t'y mettre. J'aimerais à le voir tourner autour de toi. Il faudrait lui faire du chagrin. Alors il chanterait encore mieux, hein ? Occupe-toi de lui, Lissouka. Je t'en serai reconnaissant. »
Mais elle refusa. Grande et corpulente, les yeux baissés, elle jouait avec les franges de son fichu et répétait d'une voix monotone et paresseuse
« Non, pour ça, il faut de la jeunesse. Si j'étais plus jeune, ça ne m'aurait pas gêné. »
Presque toujours, le cabaretier essayait d'enivrer Kléchoff. Mais celui-ci, après avoir exécuté 2 ou 3 morceaux et bu 1 verre pour chaque chanson, s'enveloppait soigneusement le cou avec une écharpe tricotée, enfonçait sa casquette sur ses oreilles et s'en allait. Souvent, le cabaretier dénichait d'autres amateurs pour les opposer au cellier. Quand celui-ci avait chanté, le patron lui faisait de grands compliments et ajoutait, tout excité,
« Ah, à propos, il y a encore une autre belle voix ici aujourd'hui. Nous l'entendrons tout à l'heure. »
Parfois, le nouveau venu possédait en effet un organe agréable, mais je ne me rappelle pas qu'aucun des concurrents de Kléchoff ait jamais chanté avec autant de simplicité et de sentiment que ce petit artiste sans apparence.
« Oui, oui, » murmurait le cabaretier avec quelque regret.
« Oui, en effet, ce n'est pas mal. L'essentiel, c'est d'avoir de la voix. Quant à l'âme... » Le public riait. « Non, personne ne peut vaincre le cellier, on le voit. » Et Kléchoff, examinant l'assistance sous ses sourcils roux et touffus, déclarait d'un ton calme et poli « Vous perdez votre temps, vous ne trouverez jamais de chanteur qui me dépasse, parce que mon talent me vient de Dieu. »
« Tout nous vient de Dieu. »
« Vous vous ruinerez en invitation, mais vous n'en trouverez pas. » Le cabaretier s'empourprait et murmurait
« On verra bien, on verra bien. »
Et Kléchoff insistait. « De plus, je vous ferai remarquer que le chant n'est pas un combat de coq. »
« Mais je le sais bien, pourquoi me harcèles-tu ? »
« Je ne vous harcèle pas. Je vous explique seulement que si le chant n'est qu'une distraction, il vient du malin. »«
Finis donc ! Chante plutôt !»«
Je ne m'y refuse jamais, même quand je dors. » acquiesçait Kléchoff. Il tout sautait et recommençait à chanter. Alors, toutes les petitesses, toute la mesquinerie des mots et des intentions, toute la vulgarité de ce cabaret disparaissait comme par miracle. Le souffle d'une vie autre, rêveuse, pure, pleine d'amour et de mélancolie, venait rafraîchir l'assistance. J'enviais cet homme. Je lui enviais intensément son talent, sa puissance sur les autres. Il usait si merveilleusement de ce pouvoir. J'aurais voulu faire plus ample connaissance avec lui, converser sur toutes sortes de choses, mais je n'osais l'aborder. Ses yeux blancs avaient une expression étrange, comme s'il ne voyait personne devant lui. Et il avait en lui quelque chose qui me déplaisait et m'empêchait de l'aimer. J'aurais pourtant voulu l'aimer, même quand il ne chantait pas. Il m'était surtout pénible de le voir enfoncer sa casquette sur ses oreilles, comme un vieillard, et envelopper son cou d'une écharpe rouge dont il disait « C'est ma petite qui me l'a tricotée, une jeune fille. » Quand il ne chantait pas, il prenait un air bouffi et important. Il frottait son nez,
et ne répondait aux interpellations qu'à contre-cœur, par monosyllabes. Une fois, je m'assis à côté de lui et lui demandai je ne sais quoi. Il répliqua, sans même me regarder, « Va-t'en, garnement !»